Bonjour et bienvenue sur Gameblog pour le podcast hebdomadaire de la rédac.
Combien ?
Le numéro 495, bien sûr, tout le monde l'aura noté.
Wow.
Forcément. Et bien, cette semaine, nous sommes en compagnie d'un certain Plume.
Ouais, c'est moi.
Salut, ça va ?
Ouais, ça va et toi ?
Très bien. Un certain Camille.
Hello.
À ma gauche, qui flippe avec son micro.
Exactement.
Et un certain Romain M, qui
oui,
est
salut.
Là-bas.
Il est tiré comme ça.
Exactement. On vous dira pourquoi plus tard. Ça va, les amis, tout le monde va bien, c'est la fête.
J'espère
bah, écoute,
que vous allez
ouais.
bien.
Quelle ouais. classe.
Quelle grosse semaine encore.
Et Poufi la technique, exactement. Et
quelle Poufie, grosse on semaine. Pourquoi comme... tu le cites à chaque fois
parce que moi, je suis pas une merde comme toi, tu comprends. Effectivement, Plume, comme tu le disais, quelle grosse semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses à voir cette semaine.
Inattendu.
Et ouais, exactement. Contrairement à la semaine passée où c'était un peu plus léger. Là, quelque part, on a presque un peu repoussé le podcast pour pouvoir vous parler justement de ces thèmes qui sont arrivés au dernier moment.
Et c'est le bouclage.
Exactement, c'est un peu ça, ouais, à l'époque des magazines. Donc évidemment, comme d'habitude, hein, il y aura le win, le fail. Il y a 10 ans sur Gameblog, que s'est-il passé? Plus 3 thèmes principaux, dont le premier qui va être un peu huge sur la PS5. Et là, il commence à y avoir du lourd.
Du biscuit.
Pas du biscuit pour ta feuille de chou. Le thème 2, Star Wars, pareil, hein, grosse actu cette semaine avec pas mal de choses. Vous verrez avec Camille notamment, le spécialiste S Star Wars. Et le thème numéro 3, Ancestors, les impressions de plumes, n'est-ce pas?
Ah ouais.
Le jeu de Patrice de Désilet.
Il vous exactement. Fera avec l'accent québécois.
Avec l'accent turc.
Si je savais faire l'accent québécois, ça se saurait. Hein,
et
tu
en
sais.
ASMR en plus. Le total.
Oh putain, québécois ASMR, là, je casse tout. Là.
Alors là, tu défends.
Je casse
tout,
ma voix sur
c'est
1 million d'abonnés.
Niche. Une niche à creuser.
Et bien sûr, rubrique anniversaire et hors-jeu qu'on verra à la fin de l'émission. Mais on commence tout de suite, n'est-ce pas, avec le win.
Tu le fais vachement bien.
N'est-ce pas, Plume, ouais. Le win de la semaine, c'est quoi?
Vas-y, le win de la semaine, bah, on va encore parler de Sekiro. Hein,
c'est vrai
ouais, ouais, c'est fou.
Ok, hein, je m'en vais, salut.
Ce jeu est encore à la une de l'actualité parce
exact.
Que Activision a communiqué les premiers chiffres en fait de Sekiro.
Quelle
alors
classe.
On pouvait se dire c'est un jeu From Software, ça va pas marcher, ça va se vendre moyen, machin. Bah pas du tout en fait. Ça s'est super bien passé pour Sekiro Shadows Die Twice,
exact.
Qui s'est vendu dans ses 10 premiers jours à 2 millions d'exemplaires sur PS4, Xbox One et PC, ce qui prouve déjà pour commencer que il y a eu un intérêt pour le jeu. Et ensuite, peut-être que les gens ne l'ont pas trouvé si difficile, ou alors ils étaient au courant, ils se sont dit bon, rien ouais. à foutre.
Ou alors ils l'ont découvert une fois que
voilà.
c'était acheté.
Ou alors ils l'ont vendu après avoir été écrasé par le géant Clodo. En tout cas,
bah, faut dire qu'il donne envie hein, quand tu vois les images et tout. Tu dis
ah bah son univers,
qu'il soit dur ou pas, je m'en fous, allez, je le veux.
Son univers est super cool, hein, mais voilà, 2 millions en 10 jours,
c'est
un
carton,
beau score.
Même,
bah, ouais. Comparé au reste de la saga Dark Souls ou à Bloodborne, qui eux ont mis pour la plupart plusieurs mois pour atteindre les 2 millions ou les dépasser, c'est un sacré joli score. Et du coup ça va peut-être motiver Activision et From Software à se collaborer à nouveau, peut-être à faire un Sekiro 2, peut-être faire un nouveau Tenchu aussi peut-être.
Ah bah oui, depuis le temps.
Ce serait encore une possibilité. Bref, bravo Sekiro, décidément tu auras remporté beaucoup de choses en début
de suffrage. Tout à fait.
Mais moi en fait la question que je me pose c'est
pourquoi
ça serait une bonne question, ouais, une bonne question à poser à Activision, ouais, ce bon Eric Hirschberg.
Mais pourquoi
aussi, remarque, il est pas parti, Eric Hirschberg. Enfin, je sais plus, peu importe, à
pour
quelqu'un d'Activision.
Quoi, on va voir Bobby.
Savoir, voilà, savoir ce qui les a motivés à faire ce genre de jeu, parce qu'on est diamétralement à l'opposé de ce qu'Activision fait, de sa politique en termes de jeu. Tu vois, Bobby Kotick, il veut des jeux que tu peux ressortir tous les ans, des jeux dans lesquels tu peux mettre énormément de DLC, etc. Sekiro, bah, c'est un jeu solo qui, une fois que tu l'as terminé, sauf si tu fais des New Game Plus, mais
oui, voilà.
Une fois que tu as terminé, c'est fini. Il n'y a plus de, il n'y a pas de DLC, il n'y a pas de multijoueur. Donc, est-ce que ce serait pas un jeu
d'image?
Ouais, un jeu d'image. Ouais.
Bah, ouais,
pour l'amour du game.
Pour essayer de redorer un peu le blason d'Activision auprès des gamers. Mais aussi la question ça va être de voir si ça va les motiver à renouveler l'expérience et à proposer ce type de jeu plus fréquemment. En tout cas l'univers médiéval ça a peut-être médiéval japonais,
oui,
ça a peut-être attiré aussi.
Ah bah probablement ouais.
Et bien bravo hein, après ce carton de Sekiro qu'on applaudit des quatre mains, surtout Johnny One avec ses 42 K au collector qu'il a piqué. Et bien nous passons au fail, Romain, n'est-ce pas? Un fail
oui.
un peu relou.
Et un fail assez étonnant. C'est qu'un joueur visiblement de la version PC de The Division 2 en fait s'est amusé à parcourir les décors du jeu et à prendre en photo les différents les différentes publicités sur les magasins, les différents trucs de street art, etc. Pour noter ce qui n'allait pas forcément. Genre là, il y a une faute d'orthographe. Là, en termes culturels, bah c'est pas cohérent avec ce qui se fait vraiment aux États-Unis, etc. Tu vois, il a pris énormément de photos des environnements et il a fini par tomber sur une peinture, sur une pièce de street art qui est affichée sur un immeuble du jeu que Poufy va pouvoir vous montrer pour ceux qui ont la vidéo. Et donc en fait, on voit un policier en train de manger goulûment un donut.
Ou des donuts.
Et sur son, comme l'image le montre, sur son badge, il y a marqué FA6607. Donc c'est du lead speak, hein, c'est écrit avec des chiffres, moitié chiffres. Mais en fait, ça veut dire fagot. Et fagot, c'est tout simplement en anglais, c'est très, très vulgaire, c'est ouais, PD, quoi. C'est une insulte homophobe, tout simplement.
C'est pas très sympathique.
Et donc il l'a remarqué, et ça s'est su évidemment sur le net assez
forcément,
vite, ça s'est répandu. Et donc Ubisoft a fait un message d'excuse. Mais avant de parler du message d'excuse, il faut montrer. À quoi fait référence cette peinture? En fait, c'est une parodie, on va dire, d'un disque de punk des années 80. Et sur lequel, bon, on le reconnaît bien, le policier.
Donc oui, il a la même tête.
Là,
hein.
Plutôt que de manger un donut, il se fait mettre un flingue dans la bouche. Et il y a écrit le mot fagot directement aussi. Donc clairement, la peinture dans The Division 2 fait référence à cette pochette de disque. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire une telle référence?
C'était pas très judicieux.
C'est pas très malin de la part de l'artiste.
Et même si c'était un clin d'œil, tout ça, c'est pas très.
Je suis étonné que c'est réussi à passer la validation chez Ubi.
Faut dire que le fagot écrit en lead speak, on le voit vraiment pas hein, quand même.
Oui, mais
faut fouiller le truc.
Ouais,
pour,
mais ce dessin-là, je pense qu'avant d'être affiché sur l'immeuble,
ça a peut-être interpellé des gens.
Il a été montré plus directement, je pense, à quelqu'un qui passe en revue ces trucs-là. Et donc ça a passé la validation. Et donc Ubisoft a déclaré: il a été porté à notre attention qu'une œuvre de street art présente dans Tom Clancy's The Division 2 présente du contenu offensant. Nous avons retiré l'image du jeu via un patch le jeudi 11 avril. Nous sommes désolés que cette image soit passée entre les mailles du filet de nos processus de contrôle de contenu et nous passons actuellement ces derniers en revue afin d'éviter que ce type d'omission ne se reproduise à l'avenir. Donc je sais pas exactement comment ça se faisait avant et comment ils comptent le faire à l'avenir, mais vous imaginez dans des jeux d'une ampleur comme The Division 2,
ah bah là,
où t'as des affiches, des tableaux, des peintures, des tags partout. Ça doit être un processus extrêmement long. Donc je sais pas si c'était automatisé, plus ou moins automatisé avant, ou ce qu'ils vont faire à l'avenir, mais en tout cas je pense que c'est une sorte, bon, ça a pas fait une polémique énorme non plus, mais
parce qu'ils se sont excusés tout de suite,
c'est le genre de publicité dont je pense qu'ils voudraient bien se passer.
Ils ont remplacé par quoi du coup le texte en dessous? N1663R,
H1N1. on sait pas, hein, ils ont peut-être juste mis donut à la place.
Exactement. Avec Homer Simpson et puis c'était
donc fini. Voilà pour ce
fail de la semaine. Merci beaucoup. Tout de suite on passe à Il y a 10 ans sur Gameblog. Et c'est toi, mon cher Plume.
Et oui,
qui
mon cher Trazom.
Attends,
j'arrive pas à le faire. Putain, j'arrive pas à faire Thomas. C'est un truc de fou, hein. Et oui, mon cher Trazom. Il y a 10 ans sur Gameblog, eh bien, nous apprenions grâce à une news que Microïd. Voilà. Microïd n'était pas très content il y a 10 ans. Alors une société qu'on connaît plutôt pas mal, où on a quelqu'un qui s'est infiltré il y a pas très longtemps.
Infiltré maintenant.
Voilà. Eh bien, il y a 10 ans, Microïd faisait part de ses
doléances.
Problème de ces doléances par rapport à Sony,
exact.
Parce que selon le président de Microïds, Emmanuel Olivier, il y avait un vrai problème de rémunération du côté de chez Sony en termes de royalties. Ce que demandait Sony pour qu'un jeu soit publié sur PS3 était, selon lui, exorbitant et freinait justement les éditeurs et les développeurs indépendants à pouvoir sortir leur jeu dessus. L'exemple qu'il prenait à ce moment-là, c'était Siberia 3. Qui était sûr de sortir sur PC, disait-il dans une lettre ouverte, mais par contre, pas certain d'arriver sur PS3. Et il expliquait donc que les royalties exigées par Sony pour fabriquer des jeux sur console, c'était environ 55% du chiffre d'affaires de Sony. C'était assez exorbitant, effectivement.
Le chiffre d'affaires du jeu, pas de Sony.
Attends. Hein, Microïds a ainsi versé à Sony plus de 15 millions d'euros de royalties sur l'ensemble de son catalogue. Ah oui, soit 55% de son chiffre d'affaires pour cette plateforme. Oui, okay. Voilà, c'était pour Microïds, hein, le chiffre d'affaires. Et ce n'était pas un poisson d'avril, puisqu'il faisait évidemment. Il publiait sa lettre le 1er avril à ce moment-là. Et donc, il imaginait mal la sortie, malheureusement, de Siberia 3 sur PS3. Siberia 3 qui sortira finalement en 2017 sur PS4. Oui. Donc, il y aura de l'eau qui a coulé sous les ponts en attendant. Mais c'est vrai que la politique de Sony à l'époque était peut-être beaucoup moins avantageuse qu'elle l'est aujourd'hui pour les indépendants. Et ça a été beaucoup plus à l'avenant avec la PS Vita notamment et la PS4.
Quand on voit en plus ce qui se fait sur Xbox depuis la 360 vis-à-vis des indépendants et ce qui se fait sur la Switch avec l'eShop, etc., le domaine du jeu indépendant, c'est devenu un vrai domaine de compétition. Ah bah entre ils essayent de les attirer et de les mettre en avant.
C'était justement l'époque où il commençait à y avoir cet énorme virage avec le Xbox Live Arcade qui faisait venir beaucoup d'indés, les Summer of Arcade qui mettaient des jeux incroyables en avant, etc. Et c'est vraiment à ce moment-là que ça se passait, ouais, et que Sony donc avait un peu du mal.
Tout à fait. Le deuxième.
Il y a 10 ans sur Gameblog, on apprenait que Matthew Perry, acteur que vous connaissez grâce à la série Friends,
l'excellent Matthew Perry,
Chandler Bing donc dans Friends, eh bien on apprenait dans une émission sur AMC dans laquelle il était invité qu'il était fan de jeux vidéo. Et ça, c'était une sacrée découverte parce qu'en fait, c'est une des animatrices dans une vidéo que nous n'avons plus parce qu'elle a été retirée.
Elle a été retirée de
évidemment
YouTube.
Par ABC et non pas AMC. Eh bien, on apprenait par une des animatrices que, en fait, pour la femme idéale de Matthew Perry devait jouer aux jeux vidéo. L'animatrice lui demandait à ce moment-là
dans la vidéo,
si vous êtes premium, c'est la blonde qui est à droite. Voilà. Elle lui demandait alors à quoi elle devrait jouer pour vous impressionner. Lui disait bah moi je joue beaucoup à Fallout 3. Voilà. Et elle lui disait et après elle lui répondait mais tu sais de quoi je parle. Elle fait non moi je connais que la Wii, vous savez, avec le blush mode ou machin. Et là elle fait non mais tu sais vraiment pas de quoi tu parles en fait. Et là elle fait oui ok oui c'est vrai je connais pas. Et donc effectivement il expliquait qu'il était très fan de jeux vidéo, qu'il avait même des problèmes en fait. Matthew
Perry. Parce qu'il
jouait trop. Et que les médecins étaient obligés de lui faire des injections dans les poignets pour soigner ses poignets endoloris par la pratique par la pratique du jeu vidéo un peu trop importante. Donc surprenant d'apprendre ça de la part de Matthew Perry, même si après vu son âge qui est je crois aussi avancé que celui de Traz, c'est une génération qui est joueuse, et aux États-Unis il n'y a rien de spécialement spectaculaire. Mais c'était une jolie petite news.
Ce qui est amusant, je trouve, c'est que les comédiens américains, enfin les entertainers américains avouent plus facilement qu'ils jouent et qu'il joue beaucoup et dans les détails que chez nous, je trouve, parce qu'on sait qu'il y a une Mila Kunis par exemple aussi qui a dit qu'elle était accro à World of Warcraft pendant longtemps, et quand elle
Ronda
en parle tu sens
qu'elle s'y
connaît. Ouais, il y a beaucoup de
qui empilait les boîtes de pizza jusqu'au plafond.
Il y a beaucoup de
il en sortait plus.
Il y a Nathan Fillion qui prête sa voix au Halo mais qui joue aussi
Zachary Levi qui joue dans
oui, mais c'est normal, tout le monde joue plus ou moins
aux États-Unis, sans problème.
Et pour revenir plus précisément à Matthew Perry, je sais pas si c'était volontaire par rapport à ses passe-temps dans la vraie vie, mais dans Friends il y a plusieurs références qui sont faites aux jeux vidéo. On sait qu'on voit Chandler et Joey jouer à la PlayStation plusieurs fois. Il y a un épisode aussi où Chandler récupère une borne de Miss Pac-Man et il devient complètement accro. À la fin même sa main est bloquée à force de jouer au
stick.
Donc
forcément c'est je connais pas Friends perso.
Après Matthew Perry a aussi révélé, enfin non c'est pas Matthew Perry, c'est plutôt les créateurs des NBA Jam qu'on révélé par la suite que de son propre chef il avait envoyé des photos de son visage sous tous les angles pour être il avait envoyé des photos de son visage sous tous les angles pour être intégré à NBA Jam, ce que Midway a fini par faire dans NBA Hangtime. Donc en fait c'est un vrai gamer pur et dur, Matthew Perry.
Pour aller jusqu'à avoir mal au poignet, il faut quand même y aller très très fort.
Et la dernière
news, c'était une news à balles réelles, j'ai envie de dire, de Sony. Plus exactement, un responsable de Sony qui est Peter Deal, alors Deal ou Dial, je sais pas trop, qui était vice-président marketing de Sony US, qui refaisait un comparo en fait entre la Wii et les autres consoles, et qui disait en substance, m'accaparer la citation de Jack, mais il adore dire « Microsoft règne sur le bureau ». Sony règne dans le salon et la Wii règne dans le placard.
voilà. Placardo.
Et je me souviens de cette phrase.
Parce que effectivement, il continue. Nous avons constaté que ce fait dans nombre de nos recherches, les gens qui jouent à la Wii la sortent quand des amis arrivent et la rangent tout de suite après leur départ. La console qui reste branchée à la télévision est un système différent.
Différent, sous-entendu le leur, quoi.
Et ouais, quand, voilà. Et quand il dit Microsoft règne sur le bureau, c'est Microsoft. Vis-à-vis de Word, de Windows, etc.
Évidemment, oui, oui.
Ils sont pas associés aux jeux vidéo, quoi. En gros, le jeu vidéo, c'est Sony, quoi. Si
tout le monde dit, je joue à la PlayStation.
Ah bah Jack Tretton n'était pas forcément connu pour ça.
Alors dans les années 80-90, on disait tout le monde disait je jouais à Nintendo.
C'est vrai. Exactement.
Peu importe ce que tu sais à quoi tu jouais.
Mais ça fait quand même 25 ans qu'on dit je joue à la PlayStation. Hein. Ça fait quand même beaucoup.
Ouais. Bah, les non-joueurs, c'est ce qu'ils disent. Ouais. Mm. Ou ils disent soit ça, soit la Play. Ouais. Ou la joues à la Play.
Mm. Ouais, ou ils parlent juste du jeu. Oh, vas-y, on va faire un Call of Duty.
Voilà.
Un calaf. Vas-y, on va faire un FIFA.
Un calaf. Eh bien, merci, petit plume.
Et bah, de rien.
Toutes ces news d'il y a 10 ans.
Oh, petit plume, c'est mignon.
Tu connais le plus petit monsieur ou pas?
Ouais, bien sûr. Tu connais le jeune homme ou pas?
Le plus petit monsieur, il est en train de se faire étendre par sa femme à Mario Kart.
Encore au Japon. Oh là là, on a déjà parlé la semaine dernière.
Je le dis à chaque fois, c'est pour ça. Parce que je sais que ça doit le ronger. Ça doit le ronger.
Ce qu'il ronge pas, par contre,
c'est tellement pas perdre que c'est.
Oh, tout de suite.
Mais ce qu'il ronge pas, c'est le remords, par contre.
Non, t'inquiète pas.
Et ça, on en parlera pas ici, mais il fait des choses vraiment dégueulasses.
Honte sur vous, monsieur Pilon. Honte sur vous.
Les oreilles de Thomas qui sifflent. Là, je pense qu'il a, il a été 7 ans, notamment il a mal aux oreilles. Et bien, après tout ceci, nous allons passer au thème numéro 1, n'est-ce pas? Le gros morceau de la semaine. PS5. On l'appelle PS5 parce qu'elle n'a pas de nom hein, pour l'instant, officiellement.
Elle s'appellera certainement comme ça.
Ça s'appellera la Mac 3, ouais.
Non, c'est ça, oui. La Mac Machine.
Oh, ouais, la PS4 moins 4 divisé par 8. Bon, bref. Donc, Romain, toi, t'as compilé toutes les infos.
Mais déjà, on rappelle que Wired, surprise. Immense
surprise.
Parce qu'on sait que Sony avait déjà déclaré qu'il ne serait pas à l'E3 cette année, qu'ils n'avaient pas de choses à montrer ou à annoncer. Et là, l'approche de l'E3, où quand même il semble plus que probable que Microsoft annonce présente la Xbox Scarlett. Et il commençait à avoir du bruit à ce sujet-là.
Exactement.
Sony coupe l'herbe sur le pied de Microsoft d'une manière vraiment surprenante, parce que ça s'est fait
en avril,
ouais, par l'intermédiaire d'un article exclusif publié sur le site du magazine Wired, qui a eu l'occasion d'envoyer quelqu'un à la rencontre de Mark Cerny, qui était l'architecte de la PS4 et qui est aussi l'architecte de la PS5. Donc il a été dans les studios de Sony en Californie pour rencontrer Mark Cerny et pour avoir les toutes premières informations officielles. Là, c'est pas de la spéculation, là c'est pas de l'épluchage de brevets ou quoi que ce soit, là ce sont des vraies informations officielles au sujet de la console. Et donc il y avait quand même pas mal de trucs à ressortir. Ce qui est intéressant, c'est que c'est
juste un petit truc avant, leur titre global, ils mettent pas PS5, hein, ils mettent Next Gen PlayStation.
Ouais, parce que
Cerny, je pense que Cerny l'a relu à mon avis. Hein,
non, parce que Cerny veut pas dire PS5.
Voilà, exactement. Ouais. Mais en fait, ils ont quand même pris la précaution dans le magazine même de pas faire ça.
Ouais. Il le définit lui-même comme Next Gen console.
Mais ce qui est intéressant, c'est que les brevets qu'ont fuité au cours des derniers 18 mois étaient dans le juste. En fait, ça ces informations confirment pas mal des trucs qu'on a trouvé via les brevets et avec en plus pas mal d'informations inédites supplémentaires par-dessus. Donc on va les faire point par point. La première, c'est que, et là ils sont catégoriques, c'est que la console ne sortira pas en 2019. Ça nous on s'en doutait
quand même,
pas mal de bruits de couloir et de trucs disaient que non ça serait pas pour 2019,
voilà,
et que ça serait bien pour 2020. Donc Sony a pas voulu parler de 2020, ils ont juste dit pas en 2019. Donc on se dirige droit vers une sortie en 2020. Donc là, rien d'extraordinaire, mais c'est quand même bien d'avoir une confirmation. Alors là, je parlerai avec le soutien de Camille, qui est toujours là, hein, parce que on croirait pas, mais il est toujours avec nous. La console aura un processeur AMD Ryzen de 3e génération. Processeur aura 8 cœurs, alors après c'est
gravé
7nm Zen 2. Alors je sais pas,
gravé en 7 nanomètres.
Voilà. 7 nanomètres.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de chauffe
D'accord, très
justement
bien.
Dans la console.
Et donc, oui, Camille, tu me disais que ça devrait arriver sur PC prochainement.
Oui, c'est un processeur graphique donc qui devrait arriver normalement, qui était prévu pour arriver en fin d'année, enfin à partir de juillet, entre juillet et la fin d'année 2019. Mais entre temps on a eu des petites informations qui viennent de sources non officielles on précise du journal taïwanais Digitimes,
voilà, qui est toujours très bien renseigné en
qui
général
est toujours très bien renseigné en général, ouais, parce qu'ils ont
sur les iPhones et tout ça à chaque fois,
des
ils
sources
ont...
directement chez les constructeurs
dans les chaînes de production, etc.
Ouais, exactement, ouais. Et eux, selon eux, ça serait l'architecture Zen 2 ne serait pas disponible, finalisée avant le
3e trimestre,
troisième semestre
Non, trimestre.
Trimestre, pardon. Oui. Troisième trimestre.
Troisième trimestre, ça n'existe pas.
Ouais, troisième trimestre 2020, ce qui pourrait laisser une fenêtre de sortie possible pour cette PS5. Mm. Sinon, est-ce que tu veux que je continue sur les parties techniques rapidement ou
Je vais les dire et je te dirai ce que ça apporte
les 8 heures en cette nanomètre.
Ensuite, pour ce qui est de la carte graphique, on parle d'une variante customisée de la Navi de Radeon.
Ouais. Alors ça, bah pareil, hein, c'est dans les tuyaux depuis longtemps, c'est pas encore disponible sur PC. En fait, le but à terme d'AMD, c'est de pouvoir proposer des cartes, on va dire, haut de gamme, parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est quelques années qu'ils sont malheureusement mangés petit à petit par Nvidia au niveau sur le marché du PC, et du coup, ça serait l'occasion de présenter des cartes dites haut de gamme qui seraient notamment possibles de compatibles avec le ray tracing. On sait qu'AMD travaille activement pour rendre le ray tracing accessible via leur carte graphique, et comme c'est une technologie qui est pour l'instant extrêmement gourmande, Nvidia l'a présenté comme ça, mais pour le coup c'est vrai, c'est vraiment l'avenir du jeu vidéo, elle est vraiment là. C'est à dire que le ray tracing, quand tu l'actives et que tu le désactives, tu vois vraiment la différence, et on comprend pourquoi AMD veut absolument porter ça sur PC, et du coup dans le même temps réussir à incorporer ça sur PlayStation, puisque c'est quelque chose qui pourra vraiment proposer un gap graphique assez important.
Ouais, parce que là le Marc Cerny est catégorique à ce sujet, hein. Il dit que la PS5 sera compatible avec, ouais, avec le ray tracing. Donc en gros, d'après ce qu'on sait du point de vue technique de la PS5 actuellement, ça voudrait dire qu'elle sera à jour avec les meilleurs PC de jeu du moment au moment où elle sortira, c'est ça à peu près.
Alors les meilleurs, on sait pas encore, mais le problème avec le PC, c'est que les constructeurs graphiques, notamment Nvidia, proposent toujours une architecture d'avance en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont toujours prêts pour l'avenir, et c'est ça qui est problématique pour les consoles. Après,
ils n'arrivent pas à suivre.
Par contre, ce qui est sûr, c'est que la PS5, quand elle sortira en 2020, elle sera pour le coup vraiment à jour.
Elle sera up to date, je pense.
Voilà, ouais. Elle sera pas en retard, contrairement à la PS4 qui avait pu l'être d'au moins un ou deux ans. Là, c'est vraiment pas du tout le cas. Ils ont vraiment fait les choses pour qu'elle soit à jour, qu'elle puisse proposer du contenu qui soit très proche de ce que les PC vont proposer à la fin de l'année 2019. Donc c'est vraiment pas mal, quoi.
Et un autre élément que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il parlait du processeur d'AMD, il expliquait que il sera customisé à l'aide d'une pièce qui permettra d'une pièce spécifique qui rendra compatible la console avec l'audio 3D.
Ouais. Oui, il y a une puce alors ça aussi c'est important de nos jours, il y aura une puce audio dédiée, contrairement à la PS4 où actuellement c'est sur le chipset, hein, c'est comme sur certains PC pas forcément centré sur le gaming, et du coup d'avoir une puce dédiée, ça permet d'avoir une ambiance sonore bien plus agréable, bien plus élevé, notamment du son en 3D, toutes les nouvelles technologies qui sont sorties là, sur les jeux PC actuellement, qui permettent d'avoir un son 3D, enfin vraiment
ambiance
repérée dans Atmos, enfin presque Atmos, repérée dans l'espace, exactement d'où vient le moindre bruitage. Et ça, franchement, pour l'immersion, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et ça, du coup, on sait que ça sera, grâce à ça, cette puce dédiée, accessible sur la PS5. Et encore une fois, c'est vraiment un pas en avant assez exceptionnel pour une console.
Par contre, ce qui me fait peur, moi, c'est qu'ils disent que du coup, t'as pas besoin d'avoir un truc hi-fi haut de gamme de malade. Barre de son, moi j'ai une barre de son qu'on m'a offert, mais qui coûtait super cher. Du coup, si tu mets juste un casque sur les oreilles, t'as un son qui sera optimisé et qui sera forcément, a priori, d'après ce qu'ils disent, aussi bien que tout ça.
Il dit au casque, ça sera
bizarre.
C'est ce qu'il y aura de mieux, mais ce qui est encore plus dingue, c'est qu'il dit que tu pourras profiter de l'audio 3D directement depuis les enceintes de ta télé normale.
Du coup, il se coupe aussi des ventes qu'ils pourraient faire sur leur système acoustique, quoi.
Ouais, mais tu sais que différentes divisions de Sony, c'est le même groupe, mais elles sont vraiment séparées les unes des autres.
Non, je sais bien, mais là ça veut dire qu'ils se tirent la bourre, quoi, quelque part.
Ouais, je sais pas, mais
genre on a fait mieux que vous, démerdez-vous.
Pour le consommateur, c'est intéressant.
Pour le consommateur, c'est génial.
Entre un audio 3D et un système 7.1, excuse-moi, mais je pense que
d'après ce qu'ils disent, d'après les infos, ils ont l'air de dire que avec un casque de qualité, vous aurez ça, quoi.
En tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il expliquait qu'un des défauts selon lui de la PS4, c'était qu'il n'y avait pas de gap énorme entre la PS3 et la PS4 au niveau du son, justement. Et c'est pour ça que la gestion de l'audio 3D, elle a été ajoutée justement pour qu'il y ait vraiment une évolution majeure entre le son de la PS4 et le son de la PS5.
Tout à fait.
Donc, on continue.
Compatible PSVR. Ouais.
Élément intéressant. Donc, la PS5 sera compatible avec le PlayStation VR actuel. Donc, si vous êtes déjà propriétaire d'un PSVR ou que vous allez en acheter un parce qu'il y a plein de promos, etc., bah, vous pourrez continuer de l'utiliser au moins dans un premier temps sur PS5. Et ce qui est intéressant aussi, c'est lié, c'est que la console sera bel et bien rétrocompatible avec les jeux PS4. Ça a été confirmé. Alors, pour revenir à la VR, il n'a pas voulu, Marc Cerny n'a pas voulu vérifier, enfin confirmer la sortie d'un nouveau casque, mais bon, ça me semble sûr à 99,9%.
Je suis persuadé qu'ils vont faire un sans fil là, parce qu'ils ont tellement repoussé le truc.
Alors
ça serait bizarre qu'ils ne le sortent pas.
Pour le coup, tous les brevets qu'on a pu voir jusqu'à présent ont plus ou moins été confirmés par cet article. Oui. Et si on se base sur les brevets liés au PlayStation VR spécifiquement, où il semblerait qu'ils travaillent sur quelque chose,
c'est logique, hein,
quelque chose de sans fil. Mais moi, la question que je me pose à ce sujet, c'est que donc oui, la PS5 sera compatible avec le PSVR actuel. Donc ça veut dire que les jeux PSVR déjà sortis, on pourra continuer d'y jouer sur PS4.
Mais est-ce que
les jeux PSVR spécifiques à la PS5 pourront être utilisés de manière, on va dire, downgradée sur l'ancien PSVR, ou s'il faudra uniquement disposer du nouveau casque? Mais bon, là, c'est de la pure spéculation. On n'en sait rien pour l'instant. Mais en tout cas, bonne nouvelle, rétrocompatible et compatible avec le PSVR actuel.
Tout à fait.
Parce qu'il explique que la rétrocompatibilité est rendue possible par le fait que l'architecture de base de la PS5 et reprend en partie celle de la PS4, donc ça aide à ce niveau-là. Autre grosse nouveauté, et là Marc Cerny a vraiment insisté là-dessus, c'est la présence d'un disque dur SSD.
Pas disque dur, attention. On dit pas un SSD.
Juste un SSD.
Solid State Drive.
Un SSD dans la console. Et pour illustrer l'impact que cela pourra avoir sur les jeux, en fait, il a mis le journaliste de Wired face à une PS4 Pro faisant tourner Spider-Man et un kit de développement. Alors, un kit de développement qui était présenté comme étant low speed, basse vitesse, un kit de développement PS5 faisant tourner ce même Spider-Man. Et il expliquait que les séances de fast travel, donc quand Spider-Man est dans le métro, ça prenait 15 secondes sur PS4 Pro. Attention, PS4 Pro, et ça prendra 0,8 secondes sur le kit de développement PS5. Apparemment, et ça s'est dit après, je sais plus où je l'ai vu, mais d'après d'autres infos de journalistes qui ont eu des infos sur la PS5, apparemment, Sony voudrait axer le marketing de la PS5 sur le fait qu'il n'y ait plus de temps de chargement.
D'accord.
Donc tu l'as vu aussi.
Et puis en plus le SSD, c'est vraiment les utilisateurs de PC le savent très bien, c'est la chose qu'il faut avoir pour avoir des temps de chargement ultra rapides. D'ailleurs, quand on installe par exemple son OS, donc Windows, sur un SSD, le démarrage du PC est extrêmement rapide. Actuellement les PS4, PS4 Pro sont équipés d'un disque dur, mais avec une manip, avec un tournevis, etc., on peut installer des SSD déjà. Mais là au moins il sera installé d'office, ça évitera pour les gens qui ne sont pas habitués à faire des traficotages de pouvoir profiter du SSD tout de suite. Surtout que ça risque d'être un SSD de bonne qualité, d'après les dires de Marc Cerny. Ça, c'est vraiment pas mal pour profiter de jeux ultra rapides, sans temps de chargement, qui peuvent couper l'immersion, etc.
Bah, surtout qu'on voit encore aujourd'hui, on est en 2019, moi je le note régulièrement dans mes tests, il y a encore souvent des jeux qui ont des temps de chargement super longs. C'est tellement pénible, surtout quand t'as pas forcément 2 heures pour jouer et que t'as envie de te faire une petite partie rapide et t'as l'impression de perdre
un temps fou. Tu perds 25 minutes de chargement.
Ah oui, c'est un problème pour certains développeurs qui arrivent pas à maîtriser les temps de chargement qu'ils mettent entre les zones de certains jeux. Ça peut leur retirer une épine du pied aussi au passage. Moi j'ai juste un problème avec le SSD, c'est qu'on sait que les SSD ont une durée de vie qui est limitée. Il y a un certain nombre de lectures, d'écritures, réécritures qui est permis dessus. Et à bout d'un moment, il est fini.
Si c'est un million, ça va quoi.
Bah, je sais pas, c'est plus en centaines de milliers, je crois, mais c'est quand même.
Faut quand même y aller, je pense, non ?
Ça va peut-être s'améliorer avec le temps.
Oui, c'est vrai il y a certaines années, mais ça tend à s'améliorer de plus en plus, évidemment.
Et à s'allonger.
Effectivement, tu fais bien de souligner ça. C'est vrai que les SSD ont une durée de vie moindre techniquement qu'un disque dur.
Mais là, c'est pensé pour une console, donc j'imagine qu'ils vont faire gaffe quand même au niveau
Et il expliquait aussi que l'impact sur les temps de chargement, ça a aussi un impact sur le temps d'affichage et la rapidité d'affichage. Il montrait à un moment toujours dans Spider-Man, il déplaçait la caméra dans la ville pour faire remonter Manhattan rapidement. Et la différence entre ce qui était possible de faire sur PS4 Pro et sur PS5, c'est que la caméra se déplaçait beaucoup plus vite, et que le truc c'est que même si elle se déplaçait vite, tout restait net,
fluide, net,
tout ce que tu vois autour restait continuait de s'afficher.
Imagine le PSGR avec ça, là tu vas vraiment vomir. Ah, quoique non, en fait ça va être encore mieux.
Bah non,
c'est fluide,
parce que non, mais en plus
ça sera vachement plus fluide.
Là,
donc
là c'est
coup,
pas lié à l'article de Wired, mais par rapport au brevet qu'on a vu, Sony apparemment envisagerait d'intégrer un système de suivi du mouvement des yeux, directement, de tracking des yeux, directement dans le PSVR, ce qui fait que la console saurait exactement.
Les yeux sur le cerveau,
en fait,
sous les yeux. Quoi.
C'est plus la console qui sait exactement ce que tu es en train de regarder, ce qui fait qu'elle concentrerait sa puissance de calcul sur cette zone-là.
D'accord.
Et ce qui l'empêcherait d'afficher plein d'autres trucs, ce qui fait que peu importe là où tu regardes, ça sera toujours flou. Alors qu'on sait que sur le PSVR actuel, parfois, des fois, si tu tournes les yeux, ça met un peu de temps à s'afficher de manière nette, tu vois. Alors que là, comme ça serait uniquement concentré sur ce que tu regardes, tout le reste ne serait pas calculé, en fait. Et ça se calcule juste en temps réel au moment où tu tournes les yeux. Et donc, ça pourrait jouer là-dessus aussi. Et là, l'utilité du SSD se ressentirait.
Il y a une autre chose qu'on peut dire aussi à propos du SSD. On peut le vérifier nous-mêmes à la rédac quand on en utilise un pour nos voyages de presse. C'est qu'il y a la portabilité du SSD et le fait que quand tu le. Déjà, c'est quelque chose qui a une taille et un poids qui est très réduit et qui est quasiment indestructible, contrairement à un disque dur mécanique. Si vous le portez avec vous, vous n'avez pas à craindre qu'il prenne un choc ou quoi que ce soit. Et je me demande s'il serait pas capable de foutre un disque dur SSD qui serait amovible pour
comme une carte mémoire un peu.
Ouais, de toute façon, faire si une memory un card et de faire quelque chose avec ça. Je me demande s'ils en seraient pas capables.
Ouais, mais il faudrait que sur tous tes disques durs, t'aies l'OS de la PS4 installé.
Oh, l'OS, tu peux le foutre sur quelque chose à part, à la limite sur un truc mécanique, justement à l'intérieur de la console.
Ouais, tu l'as dans la console et puis.
Parce que des hybrides aussi, SSD et disque dur mécanique, ça existe. Donc peut-être qu'une hybridation avec disque dur SSD qu'on enfile et qu'on retire comme on veut. Tiens, allez, on va faire une partie, d'un autre truc. Je vais aller chez quelqu'un avec mon compte qui est sur mon SSD. Je pense que c'est une possibilité.
Ouais, mais après, si tu mets ton OS PlayStation sur un disque dur mécanique, tu perds ce que tu gagnes.
Bah,
tu perds l'OS, mais peut-être pas ce qui concerne les jeux.
Ouais, d'accord, mais du coup,
vous voulez dire tu perds la vitesse
quand,
un peu d'accès et tout ça.
Quand t'as un SSD, ce qui est cool, c'est que tu t'appuies sur ton bouton, la PS4 s'allume, t'es direct dans le menu, quoi. C'est après si t'as le problème d'un disque dur classique, c'est un peu dommage de faire. Tu vois.
Toujours au sujet de la technique. Alors évidemment, comme les écrans à disposition étaient des écrans 4K, donc ça a confirmé que la PS5 sera compatible avec la 4K, mais Marc Cernier a aussi parlé de la compatibilité avec la 8K. Alors là, apparemment, Camille, il y a eu des précisions qui ont été apportées indirectement par la suite.
Alors c'est techniquement en lecture, 8K en lecture, donc lire potentiellement plus tard des
pour Netflix ou des trucs comme ça.
Netflix ou pourquoi pas selon le lecteur qui a des ultra Blu-ray. Je sais pas comment ça s'appellera quand il y aura de la 8K, mais évidemment pas pour le jeu vidéo, puisque déjà la 4K en elle-même est extrêmement dure avec les meilleurs cartes graphiques actuelles, et c'est impossible que l'architecture Navi puisse faire tourner ça facilement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au moins avec cette architecture Navi, on pourra avoir de la vraie 4K comme elle est à l'heure actuelle sur PC, sur une carte graphique haut de gamme, c'est-à-dire 4K 60 FPS ou même voire plus, monté à plus 70-80 FPS. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien pour la console.
Et certains disent que justement le fait que la PS5 sortirait fin 2020, ça coïnciderait aussi avec les Jeux Olympiques de Tokyo.
Et l'arrivée des écrans 8K.
Et qu'ils pourraient en profiter pour en vendre des masses. Tout est super calculé.
Oh la vache. Ouais, mais on sait que les Japonais, c'est souvent d'eux que viennent les évolutions sur les écrans et les résolutions, etc. Et oui, ils se préparent effectivement à diffuser certaines épreuves des Jeux Olympiques en 8K. Bon, on en a déjà parlé dans le podcast, mais les Jeux Olympiques, là, qui se dérouleront à Tokyo l'année prochaine, pour le Japon, sont des enjeux énormes, à plein de niveaux différents. En fait, les répercussions que ça peut avoir sur plein d'aspects sont vraiment colossales. C'était féminin.
Exact.
Quoi d'autre sur cette autre élément important, je sais que ça devrait faire plaisir à un certain nombre d'entre vous. La PS5 aura bel et bien un lecteur physique. Alors, on ne sait pas quel type de média, ce sera certainement un Blu-ray ou dérivé du Blu-ray, mais il y aura bien un lecteur super physique, Blu-ray. Ça ne sera pas uniquement du 100% des maths. Alors, on ne sait pas si Sony comptera proposer un autre modèle en parallèle 100% des maths, mais en tout cas,
c'est ce qui se dit en tout cas maintenant.
On sait qu'il y aura un modèle sûr où il y aura un lecteur physique pour les gens qui veulent continuer à jouer avec sur support physique, dont je fais partie. Donc, ça, c'est cool. Ils ont confirmé aussi ce dont on se doutait depuis un moment,
oui.
Que certains titres sortiront en cross-gen, PS4 et PS5. Sony n'a pas voulu confirmer ou infirmer la présence de Death Stranding parmi ces titres.
Le RP
de Sony a garanti que, que Death Stranding sortira bien sur PS4. Moi, je suis quasiment convaincu qu'il sortira sur les deux. Parce qu'en plus, récemment, je ne sais pas si vous vous souvenez, Sony a diffusé un trailer pour mettre en avant ses exclusivités PS4. PS4 uniquement
dedans.
Et Death Stranding n'était pas dedans.
Tout à fait.
Donc, ça met un peu le.
C'est PS4 2019.
Non, non, pas que. Il y avait des trucs déjà sortis. Je crois qu'il y avait même The Last of Us 2 dedans, donc tu vois.
D'accord.
Il n'y avait pas de date, c'était juste les exclusivités. Ah, ouais. Death Stranding était totalement absent de ce.
Ça peut être un indice.
C'est. Pour le coup, maintenant, je commence à penser que The Last of Us sortira d'abord sur PS4. Et alors que Death Stranding sortira directement sur les deux. Surtout qu'Hideo Kojima avait dit que le jeu était un peu en retard par rapport au planning qui s'était fixé initialement.
Mais surtout qu'on n'a pas vu grand chose de Death Stranding depuis.
Non, en termes de gameplay, quasiment rien.
Rien du tout. Excuse-moi. Donc oui, ça serait logique.
Et donc voilà pour ça. Avant-dernier point, parce qu'on a eu un truc ce matin depuis. Il n'a pas voulu. Marc Cerny n'a pas voulu rentrer dans les détails au sujet de la gestion du cloud parce qu'on sait que c'est un peu un des nouveaux enjeux du jeu vidéo.
Du turfu. Ouais.
Parce qu'on sait qu'il y a Microsoft à son service Project de cloud, Stadia de Google. Donc Cerny n'a rien voulu dire, mais il a rappelé que Sony faisait partie des pionniers du cloud. Et donc, moi, il y aura certainement. En plus, ils ont déjà le PS Now. Peut-être qu'il y aura une version plus avancée sur PS5. Donc, oui, je pense que le cloud jouera un rôle aussi sur PS5. Et dernier élément qui est ressorti indirectement de cette interview de Wire, c'est que tout le monde s'est étonné, visiblement la technique de la machine sera quand même conséquente, ça sera une belle bête, mais aucune info sur le prix. Et donc le journaliste de Wired qui a fait cette interview de Marc Cerny a tweeté, j'ai bien posé la question à Marc Cerny mais on n'a pas inclus le truc dans l'article, et donc il a mis le transcript de cet échange sur le prix que j'ai mis dans une news sur Gameblog. Je l'ai pas texto, mais en gros l'idée c'était que selon Marc Cerny la PS5 aura un prix intéressant pour les joueurs au vu
de
ce qu'elle propose techniquement.
Donc
alors après le journaliste a voulu le relancer en disant est-ce que ça veut dire que ça sera un peu plus cher mais que vu la configuration les gens en auront pour leur argent. Et il a dit je peux vraiment rien dire de plus à ce sujet.
C'est tout ce que je peux dire.
Je pense que puisque le journaliste faisait référence au prix de lancement habituel on va dire des consoles et donc si on pouvait s'attendre à un prix un peu supérieur à ça, et vu la réponse de Marc Cerny et vu la configuration de la console, je pense qu'effectivement ça sera peut-être plus cher que ce qu'était la PS4 au moment où elle est sortie. Mais on l'a vu aussi bien avec la PS4 Pro que la Xbox One X, quand les machines proposent des machines à la pointe, on va dire, il y a quand même un segment du marché qui est prêt à suivre quand la technologie en vaut la peine. Après, en plus, on sait toujours que les early adopters sont là dès le début. Donc c'est peut-être
même à 900€.
À 900€, je sais pas si les gens iraient jusque là.
T'inquiète pas.
On se souvient que les 600€ de la PS3 lui avaient un peu causé du tort au début. Donc à voir à ce niveau-là, mais donc le prix, ouais, faudrait pas, ça serait pas étonnant que ça soit un petit peu plus cher.
Le matos à l'intérieur, c'est quand même s'ils arrivent à descendre en dessous des 500 dollars.
Elle était à combien la PS4 déjà? 499,
c'est ça?
La PS4. Non, la PS4 était à 400. C'était justement la Xbox. C'était la Xbox qui était 600€ plus cher. La PS3 était 600 et la PS.
Parce que là, la Xbox One S, que j'allais dire all inclusive, mais all des maths.
229€. Après, on s'est connu aussi que certains constructeurs vendent des consoles à perte entre guillemets et qui se rattrapent sur les jeux, quoi.
Oh, après ils peuvent, après, ils achètent des lots dans des proportions qui sont monstrueuses et du coup ils peuvent avoir un petit rabais sur les composants. Mais
la PS3 a été vendue à perte pendant super longtemps, pendant des années même, et c'est ça a vraiment mis un certain temps avant que ça passe. Mais
rien que le GPU Navy là, j'imagine mal en dessous des 150€ de base, tu vois. Donc rien que ça, j'ai du mal à imaginer comment
Ah, mais ouais, les quantités, après, les quantités commandées,
oui,
voilà,
oui, oui, certes.
Et le SSD aussi, le
SSD,
ça coûte cher.
Qu'un disque dur, déjà.
Et avoir un SSD qui ferait aller 1 Tera, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir moins d'un Tera pour.
Vu la taille des jeux, c'est
jouer en dématérialisé.
Oui, justement, moi, c'est la taille
d'un Tera, ça coûte déjà bonbon aussi.
Non, ça coûte moins 1 Tera, ça va, c'est accessible maintenant.
Mais 1 Tera seulement pour les jeux qui seront bien plus gourmands, ça me paraît vraiment pas beaucoup.
Non, c'est pas beaucoup.
Parce que les 1 Tera, c'est maintenant, quoi.
Il faut minimum 2 ou 3.
Voilà, c'est ça. Moi, je pense que le minimum, c'est 2 maintenant. Enfin, pour la PS5, je veux dire.
Alors, du SSD de 2 Tera.
Non, mais là, c'est.
Ouais,
mais c'est
parce qu'en plus, il y a SSD et SSD. Hein. Ils se valent pas tous. Oui, et là, sûr. Apparemment, ça a l'air d'être un truc assez haut de gamme. Ouais.
Bah, entre un SanDisk et un Samsung, t'as peu à 100-150 euros de différence. Quoi.
Ah, et toi, Camille, d'un point de vue Tecos PC, qu'est-ce qu'elle t'inspire
je trouve ça hyper intéressant.
Est-ce que tu vas te commander tout de suite?
Bah, non, mais ça dépendra des exclusivités de ça. Mais je trouve le principe hyper intéressant. Surtout qu'ils ont vraiment axé sur le fait d'avoir quelque chose de physique, contrairement à Microsoft qui axe plus sur l'immatériel. Et je trouve ça hyper intéressant pour les joueurs.
Ça, sur la oui, Scarlett, c'est pas sûr encore.
Oui, oui, bien sûr, mais je parle juste pour l'instant. Je trouve ça hyper intéressant pour les joueurs comme toi, par exemple, qui aiment bien avoir un jeu entre les mains, etc. Et puis, même d'un point de vue technique, ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent vraiment avoir un truc à jour, quoi. Et pour une fois, ça sera pas une console qui aura une année de retard, et ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment quelque chose qui sera actuel. Et en plus, en soulignant très bien ce qu'avait dit Plume, s'il y a la possibilité d'upgrader, c'est-à-dire pour changer un SSD, etc., ça peut être hyper bien, quoi. C'est-à-dire, si tu peux juste ne serait-ce que switcher rapidement, t'as un petit truc à enlever et tu retires ton SSD et t'en branches un autre, ça serait magique.
Ce qui est marrant, c'est que t'as l'impression un peu d'être dans une sorte de course à l'armement.
Ouais.
Entre Sony et Microsoft vis-à-vis technique. Hein. Et je me demande si les consoles, on sait pas combien de temps elles continueront à exister, mais je me demande si les consoles pourraient pas devenir justement le secteur de la ultra high-tech. Genre, si tu veux, si la tech, c'est pas forcément la pointe, c'est pas forcément ce qui t'intéresse, t'as la solution de streaming, oui. via le cloud, etc. Mais par contre, si tu veux, vrai, parce que si tu lis les interviews aussi bien de Sony ou de Microsoft, ils disent toujours la meilleure façon de jouer restera la console que vous avez chez vous. Et donc, ça pourrait être, tu vois, tu veux la meilleure expérience, t'achètes la console et la console, elle est à la pointe techniquement. Si tu t'en fous un peu, t'as les services, mais si tu veux vraiment jouer dans les meilleures conditions, t'as les consoles à la pointe.
Bah, oublions pas non plus que les services de streaming, ils peuvent s'adapter et changer leur hardware
assez facilement.
Dès qu'il y a une nouveauté,
bien sûr, mais t'auras toujours
comme Stadia ou Shadow qui font ça.
C'est sûr, mais t'auras toujours un peu plus de latence ou de risque de latence.
Oui, bien sûr. Ou des risques de pas jouer du tout.
Voilà, où tu seras plus exposé aux aléas de la technique sur du streaming que si t'as la console, chez toi. Même si maintenant on sait que sur console il y a certains jeux qui nécessitent une connexion, ou s'il y a des mises à jour énormes, etc., etc. Ouais. Mais t'as quand même plus de chances de pouvoir jouer si t'as le jeu chez toi, sur la console chez toi,
au milieu de la cambrousse,
que via du streaming.
Personne,
bien sûr.
Exactement. Tout à fait. Bon, je crois qu'on a tout dit sur.
Yes.
Sur ce qu'on sait, en tout cas.
La PS5.
Ah, c'est déjà pas mal.
C'est déjà beaucoup. Ouais.
Moi, je m'attendais pas à ça hier.
Oui, effectivement. C'est tombé un petit peu comme.
Sur la
peu sous. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'était le premier thème, la PS5 et toute l'actu qui tourne autour. Un très très gros morceau. On passe au thème numéro 2. Et là c'est pareil, c'est un très gros morceau avec Star Wars. Toutes les infos Star Wars, Camille et Plume, vous allez nous en dire plus, je pense.
Est-ce que tu veux que je commence ou
Il y a eu deux jeux en fait. Il y en avait un qu'on attendait très fort. Évidemment,
très, très fort.
C'est Star Wars Jedi Fallen Order qui avait été annoncé pendant le 3 dernier.
Exact.
Et on a eu droit effectivement à quelque chose, mais peut-être pas forcément ce qu'on voulait.
Voilà, précisons que c'est pour la Star Wars Celebration.
Évidemment, c'est la Star Wars Celebration qui s'est tenue le week-end dernier. Et c'est pas exactement ce qu'on voulait. Alors c'est joli, c'est bien. On a vu de la cinématique.
C'est
en
la
fait.
Cinématique. Ouais.
On a vu de la cinématique qui présente un peu l'univers du jeu. Malheureusement, pas de gameplay. Voilà, le jeu de Respawn pour l'instant, on n'a pas de gameplay. On a eu quelques précisions de la part de Vince Zampella et Stig Rasmussen après, mais pour l'instant, voyez, si vous êtes premium, vous pouvez revoir la vidéo. On peut juste découvrir que on a donc un personnage, un jeune Padawan qui va devoir essayer de fuir absolument l'Empire. Hein. Il essaie de se cacher, il essaie de pas se faire retrouver. Ça se passe entre l'épisode 3 et l'épisode 4, comme ça avait été déjà annoncé. C'est un acteur de la série Gotham qui va jouer ce personnage.
Quelle classe.
J'ai oublié évidemment son prénom, mais c'est Monaghan, son nom de famille. Et donc, pour l'instant, ça a l'air d'avoir une ambiance plutôt sympa. Mais à côté de ça, c'est sûr que en dehors du fait que J'ai l'impression qu'il y aura un peu de Titanfall parce qu'ils aiment bien les gens qui courent sur les murs,
voilà, c'est ça.
Et que la musique fait beaucoup penser dans cette bande-annonce à Avengers.
Ah ben le montage de la bande-annonce et la musique, c'est une putain de bande-annonce d'Avengers avec les boum au début, fondu, ensuite ça reprend et progressivement ça monte. Enfin, tu mets les deux côte à côte, parfois on dirait limite du plagiat, quoi.
Ouais. Et donc voilà, ce personnage donc qui s'appelle Cal Kestis, qu'on incarnera, qui est joué par Cameron Monaghan. Ça m'est revenu, c'est incroyable, hein, t'as vu, j'ai des fulgurances comme ça.
Ouais.
Et donc qui sera plutôt orienté combat rapproché, le sabre laser, vous le voyez, est bien au milieu de l'aventure. On le voit à la fin d'ailleurs, c'est plutôt joli.
Je te trouve trop lisse, moi, ce perso, je sais pas.
Ouais, alors oui,
je te trouve très bizarre, moi.
Bah, il a une tête générique un peu.
Ouais, ça, je trouve qu'il a rien à voir.
Et vous êtes vraiment des ordures avec les mecs, leur physique, quoi. Le mec, il a une tête générique. Tu vas voir des gens dans la rue, tu les crois sur. Et donc, toi.
On dirait qu'il est pas vrai.
Là, c'est un héros de jeu. On parle pas des gens dans la rue.
Moi, j'ai pas vu Shameless dans la série.
Je trouve qu'il a zéro charisme dans cette bande-annonce. Après, j'en sais rien, je le connais pas.
Mais j'ai pas vu Shameless, une des séries dans lesquelles il joue, ni Gotham dans lesquelles il va jouer le Joker.
Oui, peut-être qu'il est très bien.
Ça se trouve, il est super. Moi, je le connais pas du tout.
Mais là, en tout cas, je sais pas, je trouve pas ça très bien fait, quoi. Mais bon, je sais pas.
Oh la vache, alors là.
J'y connais tout le monde rien à Star Wars, donc je peux pas m'exprimer là-dessus. Camille, par contre, toi, t'as des choses à dire.
Probablement, ouais.
Bah, alors, du coup.
Moi, je voulais jouer l'Empire.
Je comprends pas.
Un petit rapide récapitulatif sur cette historique. Alors,
il y en a pour une heure, là. Salut.
Non, il y avait plusieurs jeux Star Wars qui étaient en préparation chez EA, on le sait. Il y avait ce fameux projet Ragtag, qui était un jeu proposé, développé par Visceral. Il nous l'avait teasé l'E3 2016, si mes souvenirs sont bons.
Ça remonte.
On avait juste un screenshot, enfin deux ou trois screenshots des concept art, c'était plutôt joli, et un petit teaser, et ce truc là a été totalement annulé parce que Visceral a depuis fermé ses portes.
Que je me trompe pas, c'était le truc avec Camille Hennig
et Todd Stashwick.
Ça a totalement disparu des radars, comme Star Wars 13 à l'époque, et il reste deux projets en développement, ce fameux Jedi Fallen Order et un autre jeu qui est pensé comme Game as Service, donc totalement l'opposé de celui-ci, qui est un jeu purement solo qui ne possédera aucun DLC et c'était aucune microtransaction, etc.
Oui, d'ailleurs, la communication est assez étrange par rapport à ça.
Moi, ça me m'étonne.
Sur Twitter, ils ont fait une checklist pas de microtransaction, expérience solo, etc. Alors que Ami Enik, qui était au reboot en Croatie, a vu ça et était un petit peu sidéré, parce que les raisons pour lesquelles son projet avait été annulé, c'était justement parce que le jeu ne correspondait pas aux attentes d'IA à l'époque. Mais après, le management a changé.
Oui,
donc,
n'oublie pas qu'il y a eu l'histoire Battlefront 2.
Les plans changent.
Il y a eu l'histoire Battlefront 2 entre les deux.
Un gros taquet.
Et donc, du coup, ça a pu changer leur plan, comme tu dis.
C'est leur Sekiro.
Peut-être.
Du coup, c'est dommage pour Ragtag. Après, pour cet épisode spécifiquement Fallen Order, moi qui suis fan de Star Wars, j'ai pas forcément été beaucoup hypé par cette bande-annonce. Pour une simple raison, c'est que d'un point de vue technique, en fait, je trouve pas ça ouf. Je trouve ça assez rigide, en fait. Je sais qu'EA est capable de faire mieux avec son moteur Frostbite. Et là, honnêtement, en l'occurrence, c'est pas EA, c'est Respawn. Pour l'instant, tant qu'on verra pas de gameplay, j'imagine mal la hype montée. D'ailleurs, on l'a bien vu sur Twitter, même si on en a beaucoup parlé parce qu'il y a eu une annonce d'un jeu Star Wars.
C'était sans plus.
Ouais, les gens étaient pas oufissimes devant dire ah, c'est super et tout. Ils étaient pas en état de transe, loin de là.
C'est peut-être que les gens sont un peu méfiants vis-à-vis d'IA.
Le problème c'est ça, c'est qu'IA a ravagé les jeux Star Wars à laquelle ils ont eu. C'est vraiment ce qu'ils ont fait. Ils ont surtout annulé un après les autres les projets qui donnaient.
Ah, mais t'as vu, c'est pas Frostbite, hein, c'est l'Unreal.
Ouais, pour le coup, ouais.
Ah, c'est l'Unreal. Ouais.
Apparemment, Frostbite, il y a eu les fuites de chez BioWare. Et apparemment, le Frostbite, ça a l'air d'être une merde pas possible à développer dessus. Ça a l'air d'être galère comme pas possible.
Pourtant, ça a l'air d'être un meilleur moteur en fait.
Le problème, c'est que Frostbite, c'est un moteur fait pour l'FPS. Et là, c'est un jeu à troisième personne. Et du coup, effectivement, c'est pour ça qu'en thème, ils ont eu beaucoup de mal à développer.
C'est pas le même rendu.
En thème et le dernier Mass Effect aussi.
Ils ont forcé sur le Frostbite alors que c'était un jeu, c'est un moteur développé pour l'FPS. Donc ça reste très bien pour Battlefield, mais effectivement, pour un jeu comme ça, beaucoup moins. Et du coup, ce que je disais, j'étais sur la hype. Exactement, c'était quand même malheureux parce que, par exemple, Star Wars 13, qui était le jeu où tu incarnais Boba Fett, a soulevé une hype hype pas possible. Les gens étaient vraiment, les fans de Star Wars en tout cas, étaient vraiment fous par rapport à là-dessus. Ils étaient hyper contents. Ils ont annulé ça. Ils nous proposent un jeu un peu plus générique, c'est vrai. Alors, sans parler du design du personnage, c'est juste l'ambiance. Il manque un truc. On reconnaît qu'on est Star Wars parce qu'il y a du Stormtrooper, il y a des vaisseaux spatiaux, etc.
Des Inquisiteurs.
Des Inquisiteurs, ouais. Des soldats d'élite, etc. Mais. Je sais pas, il manque cet aspect un peu rugueux qu'on aurait pu espérer. Surtout que dans le même temps, ils ont proposé, comme tu disais si bien, le jeu se passe entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Dans le même temps, à peu près dans le même créneau, il y a la série The Mandalorian.
Premières images, ouais.
Exactement, il y aura peut-être même, alors ça c'est une supputation, mais il y aura peut-être des clins d'œil entre la série et ça, puisque ça se passe exactement à la même période.
Puis il y a Clone Wars aussi, la saison 7, qui a été montrée durant Last of Wars Celebration.
Ouais, il y a trop de trucs qui veulent tout rentabiliser, là, il y en a marre.
Donc, je sais pas, ça manque un peu de charisme, comme disait Traz, et c'est ça manque, je sais pas. Certes, c'est du Star Wars, on reconnaît bien, mais ça manque de quelque chose, je sais pas quoi, je saurais pas le dire.
Tu vois, toi tu le dis, et pourtant t'es un grand fan de Star Wars.
Bah oui, c'est ça, je trouve pas ça hyper fun en fait. Mais il faut voir du gameplay pour voir ça ressemble.
Exactement, faut avoir du gameplay, puis d'histoire aussi, parce que c'est quand même Chris Avellone qui s'en occupe.
Ah ouais.
Chris Avellone, c'est Planescape Torment, c'est Alpha Protocol, c'est Fallout New Vegas, enfin bref, un mec avec un background et qui bosse aussi sur Dying Light 2 en ce moment et qui bosse sur des milliers de trucs différents, qui est un scénariste ultra talentueux. Et bah, à mon avis, bah oui, ça va pas être n'importe quoi.
Mais surtout qu'il y a de la matière, parce qu'en fait, on joue quand même un Jedi qui a survécu à l'Ordre 66, donc l'Ordre 66, c'est cet ordre donné par l'Empereur pour exécuter les Jedi, et du coup, bah, c'est un des survivants, peut-être même un des seuls, enfin, on sait qu'il n'y en a pas qu'un, mais voilà, un des rares, on va dire, et du coup, bah, ce postulat de départ est assez intéressant pour un fan de Star Wars, et même pour quelqu'un qui connaît un peu de loin l'univers Star Wars, ça peut toujours être sympa, jouer un Jedi, mais c'est vrai que voilà, faut voir ce qu'ils vont en faire, est-ce qu'ils ont assez de matière pour faire quelque chose de sympathique, est-ce qu'ils vont faire des clins d'œil aux séries, aux autres œuvres de Star Wars, les BD et aussi la série Clone Wars qui justement va se terminer à la toute fin de l'épisode 3. Donc faut vraiment voir ce qu'ils vont faire avec ça. En tout cas, pour l'instant, je suis mitigé et de ce que j'ai sondé un peu sur le net, c'est vrai que les fans de Star Wars sont un peu mitigés aussi, quoi.
Mais Plumeau, tu parles de Chris Avellone au scénario, mais quand tu touches un univers comme celui de Star Wars qui est ultra,
j'ai oublié Kotor 2 aussi, hein,
ultra réglementé, ultra contrôlé, et tu dois avoir je sais pas combien de passes de validation chez Disney,
mais ils sont fous Lucas, Disney, etc. Maintenant.
Oui, non, bien sûr. Non, mais non, t'as un lore à respecter, etc. Ouais. Est-ce que ça bride pas? Est-ce que ça bride pas ce que tu peux écrire?
Je pense pas, non. Je pense pas que Chris Avellone soit bridé. KOTOR 2 était un excellent RPG avec un univers beaucoup plus sombre que le premier. Et ils sont allés très loin avec KOTOR 2.
Oui, c'était pas la même époque.
Ah, c'est sûr.
C'était une période où il n'y avait plus vraiment de films, etc. Enfin...
Mais oh, bah, c'était un peu après non, c'était pendant la sortie de l'épisode 2 et 3. Hein.
Ah, ouais, quand même. Ouais.
Épisode 3, il me semble.
Un peu après l'épisode 3, ouais.
Et non, mais je pense que il y aura pas de souci de ce côté-là. Je pense qu'ils ont dû
être respecter, tout ça,
très contents de rebosser avec lui du côté de chez LucasArts, de ce qui reste de LucasArts, pardon, qui s'occupe un peu de chapeauter tout ce qui est jeu Star Wars. Donc moi, j'ai pas trop d'inquiétude de ce côté-là.
Bah, sauf que Star Wars, c'est comme Marvel. Tu connais bien, c'est pareil. Il y a des auteurs ils ont engagé des gens spécifiquement pour respecter l'univers et qu'il n'y ait aucune contradiction d'un
gardien du temple un peu.
C'est ça, ouais. Et qu'il n'y ait aucune contradiction entre film, série et jeux vidéo et que tout soit cohérent, quoi.
Bon, après, si ça ressemble au pouvoir de la force, le 1, je suis preneur. Hein. Si c'est dans le même style, vu comment il était bien.
Tu veux les voleurs en 4DX?
Ouais, si tu veux.
D'accord. Bah, ok, pas de soucis.
Aucun rapport.
Oui, aucun rapport, c'est très... C'est comme ça.
Mais juste un truc que j'ai pas compris, c'est quoi le Vader Immortal alors?
Alors, ça, ouais, c'est autre chose.
Ah,
c'est
pas... Vader Immortal. Mais c'est
peut-être le Star
truc,
Wars.
Moi,
alors,
c'est le truc qui m'a le plus intéressé en termes de jeux vidéo.
Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Je commence Plume ou...
Ah, bah vas-y si tu veux, ouais, y'a pas
alors,
de soucis.
Vader Immortal, c'est un projet de jeu en VR.
C'est pas un jeu.
Bah, c'est une expérience.
C'est une expérience multijoueur.
C'est
une série en VR.
Certes. Qui est censé sortir en même temps que le lancement de l'Oculus Quest.
Exactement.
Et qui sortira aussi sur l'Oculus Rift, attention. Et du coup, une série dans laquelle on incarne un mercenaire qui travaille non loin de la planète Mustafar. Donc, les fans de Star Wars reconnaîtront, c'est
quoi,
la planète Mustafar.
C'est la planète où Vador se fait découper.
C'est vous qui lui donnez un nom.
Non, c'est la planète de lave dans laquelle.
Mustafar.
Mustafar.
Ah,
Mustafar. Mustafar. Bah, Tu sais bien que tous les noms de Star Wars sont inspirés.
Oui,
de,
je sais, j'aime bien le Maroc, tout ça.
Tatooine qui devient Tatooine.
Oui, Tatooine, évidemment.
Mais Thomas du Maroc.
Thomas du Maroc, Mario, qu'on salue au passage d'ailleurs. Mario.
Et du coup,
donc, la série
c'est
en VR,
la planète sur laquelle Vador a installé sa citadelle, puisque c'est la planète où il est devenu Dark Vador, où Anakin a fait sa transformation. Et donc, du coup, on serait amené en tant que mercenaire à échapper aux forces impériales et à Vador en personne, en fait. Donc, c'est un truc qui balance pas mal de hype, qui est pas mal intéressant.
Qui est super sombre.
Moi-même qui n'aime pas spécialement la réalité virtuelle, c'est un truc qui me donne vraiment envie et qui me donnera envie d'enfiler un casque. Et donc, ça a l'air vraiment pas mal.
Surtout pas... placer un moment spécifique de la saga aussi.
C'est ça, ouais.
Un moment qui est pas forcément surexploité dans les différentes œuvres de Star Wars. Et ça met en avant Dark Vador, qui est peut-être un des personnages les plus populaires.
Je peux dire, en dehors du Nemesis de Resident, échapper à Dark Vador, ça doit quand même être quelque chose de bien flippant.
Si tu vois la scène de Rogue One avec Dark Vador et que tu dois échapper à ce genre de choses. Il y a Camille avec son petit sourire là, on a vu le fan qui a vibré intérieurement. Mais ce qui était intéressant quand Vader Immortal a été annoncé à la base, c'est qu'il semblait qu'il y avait Ninja Theory impliqué dans le truc. Et c'est depuis la première annonce qu'ils n'ont plus jamais parlé de Ninja Theory.
Même l'idée de série, en fait, là, ok, c'est découpé. Mais après, ça a l'air d'être vraiment un jeu.
Ils en ont fait un vrai jeu.
Parce que c'est un vrai jeu.
À la base, c'était présenté comme une série en réalité virtuelle.
Ils ont un petit peu.
C'est ce qui a marqué au-dessus Star Wars VR série.
Parce que c'est découpé en trois épisodes.
Et
il y a un truc qui est très rigolo, c'est qu'ils ont mis, avec le personnage qu'on va incarner, un droïde rigolo,
relou, rigolo,
et que c'est une ancienne de Saturday Night Live en fait qui va jouer ce droïde qui s'appelle Maya Rudolph. Je pense que tu vois parfaitement qui c'est, celle qui a une bouche un peu bizarre,
elle est marrante,
à la tête de clown. C'est elle qui jouera Zoé 3, le droïde qui accompagnera le personnage.
Vachement ironique, vachement pince sans rire, etc.
Et il y aura un mode, on va dire, jeu libre avec le sabre laser, et là l'entraînement de Luke Skywalker face au petit laser là que vous voyez dans Retour du Jedi, dans l'Empire contre-attaque, bah ça vous allez pouvoir le faire avec des vrais ennemis.
Nouvel espoir.
C'était dans Nouvel Espoir qu'il y a le truc avec le casque autour de la tête et tout.
Dans le Faucon Millenium quand il rencontre Han Solo Obi-Wan le... passe son sabre laser.
Je crois que c'était après.
Mais la réalité virtuelle, c'est une technologie qui se prête vachement bien à Star Wars.
Ah bah pour le coup,
clairement.
Avec le sabre et tout ça. Les possibilités et tout.
Des casques, t'es tout enfermé.
Ouais, même tu sais, les contrôleurs VR que tu as pour le sabre laser, c'est parfait.
Carrément.
Mais pour un vaisseau spatial, c'est génial quoi.
Une idée de jeu. Tiens, vous avez des sabres laser et en fait vous devez couper des trucs, mais en rythme avec la musique. Putain,
ah ouais,
je vais aller déposer.
Et ça s'appellerait Beat Saber.
Putain, mais oui,
t'imagines? Allez, au
ouais,
pif.
Putain,
attends,
on va faire
ça. C'est l'heure là.
Ah, là-bas, je vais tenter ça.
Appelle Microïd.
Direct.
Bon,
bah voilà, je crois qu'on a fait le tour sur Star Wars, non? Vous voulez ajouter quelque chose ou...
J'aurais bien voulu être à la Star Wars Celebration, personnellement.
Tu sais qu'on peut retourner dans le temps maintenant.
C'est vrai?
Ouais, non.
Ah bah ok, j'y vais alors. Parce que j'ai envie de vivre le trailer au milieu de 6000 personnes
complètement
hystériques, exactement, ouais.
Qui jettent des trucs par terre et qui t'écrasent, tout ça. C'est donc ça la Star Wars en fait?
Bah ouais, c'est ça, Star Wars.
La Star Wars hype.
Et ouais.
Bah voilà. T'as vu, le destin t'a choisi.
Ah oui? Il m'a choisi pour faire quoi?
Bah pour parler d'Ancestors.
Oh putain, mais quelle transition incroyable. Putain, c'est complètement ouf. Bah oui, Ancestors, parce que j'ai eu l'occasion d'aller y jouer. C'est le retour de Patrice Desilets enfin.
Exact.
Parce
le retour de la revanche ou pas.
9 ans qu'il a pas sorti de jeu, le pauvre vieux.
Il est revanchard ou pas? Non.
Non, ça va, je crois qu'il est pas revanchard. Il a juste envie de taffer et de livrer des expériences à tout le monde. Chose qu'il a pas faite depuis Assassin's Creed 2. Et encore, il avait quitté en cours de développement.
Assassin's Creed.
Hein. Et là voilà, avec Ancestors, on a eu l'occasion.
C'est quoi Ancestors?
C'est un jeu de survie et d'exploration qui vous emmène 10 millions d'années dans le passé, dans la période du Néogène, donc vous emmène en Afrique et vous allez jouer un de nos ancêtres, un singe,
un
tout simplement.
Un ver de terre.
Mais pour faire quoi? Pour faire comme dans le jeu que vous voyez là, si vous êtes premium sur la borne, Evo Search for Eden qui était sorti sur Super Nintendo.
Ah ouais, t'es un malin toi.
Ouais, absolument. En fait. Mais que Patrice Desilets ne connaissait pas en fait avant de lancer le développement de Ancestors The Humankind Odyssey, tu vas te retrouver à devoir apprendre à évoluer, tout simplement. Ça commence par apprendre à pourquoi pas devenir ambidextre, avoir la possibilité de passer un objet d'une main à une autre, d'apprendre à reconnaître des plantes, d'apprendre à savoir quoi faire avec des feuilles, d'apprendre des milliards de choses. En fait, ce que tu vas faire dans Ancestors, c'est
Évoluer à sa manière, en fait.
Utiliser ta curiosité,
ouais.
Et évidemment faire attention à cet environnement hostile autour de toi pour éviter que ta génération soit sacrifiée et que la suivante du coup n'ait rien appris et que rien n'a été transmis finalement en termes de connaissances, en termes de motricité, en termes de tout, voilà, en termes de digestion aussi, parce que
ah oui, ça prend.
C'est vraiment un truc. Les deux premières heures sont vraiment très très brutales, à plein de niveaux, parce que tout ce que tu vas faire, c'est susceptible de te foutre dedans. Tout. Tu vas aller, par exemple, dès le départ, aller secourir un petit singe de ta tribu, qui malheureusement va perdre son papa. Qui l'emmenait tranquillement aller chercher du poisson. Et tu vas aller au chevet, on va dire, de ce cadavre qui est dans un nid. Et là, tu vas découvrir un œuf. Donc l'œuf, qu'est-ce que tu fais? Tu le regardes, tu le prends,
tu le bouffes.
Tu te dis qu'est-ce que c'est, tu le renifles, tu te dis bon, je vais peut-être le bouffer. Sauf que à cette époque, je crois, les singes ne sont que des herbivores. On n'est pas encore des omnivores dans la lignée humaine, on va dire. Et donc du coup, quand tu bouffes cet œuf, tu te sens pas forcément bien. Ton système digestif te dit c'est pas cool, donc il va falloir que tu t'adaptes au fur et à mesure. Et c'est comme ça pour tout. À peu près pour tout, pour que ce soit la bouffe, même la flotte. Si tu veux pas t'empoisonner, il faudra bien analyser la flotte. Tous les sens vont être en éveil quand tu vas te balader et essayer d'explorer un petit peu ce qui se passe. Tu vas te retrouver dans des zones où tu ne sais pas ce qui se passe, donc du coup t'as peur. Ton instinct te dit mais non, il faut que je me casse là. Ça se trouve il y a des serpents, il y a des sangliers ou des je sais pas quel félin qui va me croquer. Et donc du coup il faudra essayer de vaincre ta peur. Il faudra essayer aussi de tisser des liens avec d'autres membres de ton clan.
D'accord.
Apprendre aussi à crier pour rallier ton clan, pour peut-être conquérir des territoires aux dépens d'autres animaux. C'est vraiment un jeu qui a l'air unique dans son approche, dans la façon dont il va falloir que tu apprennes à évoluer, parce qu'il faudra faire des choix évidemment, hein. T'auras ton petit bébé sur le dos et tu devras lui montrer tous les trucs que tu peux faire, et tout n'est pas
pour que lui,
pour que lui puisse l'assimiler aussi au fur et à mesure et que ça se transmette.
Mais justement, comment ça se passe? Il y a des séquences où ça s'arrête à un moment donné et tu passes à une autre évolution ou pas?
Ah, d'accord, vas pioncer, t'auras en accomplissant certaines actions, tu auras la possibilité de débloquer des neurones en quelque sorte, des énergies neuronales qui te permettront, bien comme je te le disais, d'améliorer ta motricité. Et du moment où tu pourras prendre une chose dans une main et la passer dans une autre, tu pourras faire des trucs que tu pouvais pas faire avant, comme par exemple, tout simplement, retirer les branches, les petits branchages d'une branche. Pour faire quoi après avec la branche, ça c'est une autre histoire. Tu pourras apprendre aussi sur le tas à comment faire un lit, tout simplement, pour te reposer. Ça c'est quelque chose que tu sais pas faire dès le départ. Et c'est toute une histoire d'apprentissage, de curiosité, d'exploration, qui a l'air absolument passionnant, qui est très difficile au début, parce que la survie, moi je sais pas, hein, là je t'emmène dans la nature.
Je pense que je suis mal.
moi je pense que je suis complètement baisé dès le départ, quoi. Et là, c'est ce que te fait comprendre le jeu, c'est que à l'époque...
Comment tu réagirais,
comment tu ferais si t'étais un singe il y a 10 millions d'années, sachant que t'es quand même capable de t'accrocher à des branches, de grimper dans les arbres, et que tu te rends compte que finalement c'est peut-être mieux de rester dans les arbres.
En fait, c'est le système d'XP d'un RPG, on va dire, appliqué à l'évolution.
Moi, à quoi ça me fait penser, c'est à un civilisation en fait, où tu vas pouvoir choisir en quelque sorte la façon dont tu vas évoluer, et tu sais pas où ça va t'emmener, et ça se trouve ta partie, au bout d'un moment, tu vas te dire bon, je l'aime bien, mais je crois que je vais en recommencer une pour essayer de faire encore mieux, pour essayer de passer le temps. Je pense que ça va être un jeu passe-temps vraiment exceptionnel de ce côté-là, qui va te permettre de faire des trucs assez fous qui n'ont jamais été faits auparavant. Moi, je parle de Evo Search for Eden, qui est un des rares jeux sur l'évolution que je connaisse personnellement.
C'était Sport aussi qui avait essayé de faire
Sport,
Sport. Après, c'est quelque chose d'un peu plus bizarre, Sport.
T'avais Seven's Cross sur Dreamcast aussi, qui était complètement chelou, avec un système d'évolution aussi. Mais ouais, un truc plus lié à notre véritable évolution, c'est
un truc plus lié à notre histoire. Finalement, ça ne se fait pas beaucoup.
L'histoire humanoïde.
Après, Desilets, forcément, lui a l'air d'être très très demandeur de la chose. Moi aussi, je dois avouer que j'étais pas spécialement curieux du jeu avant d'y avoir joué. Et le fait est que ce système ultra complexe, cette richesse qui est possible, et puis voir ce que ça donne sur la longueur, sur l'évolution de toutes les générations qu'on va entraîner finalement, ça peut donner quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors techniquement, Oui, c'est pas génial.
Mais ça peut, c'est pas si moche que ça. Hein.
Mais ça va, franchement,
pour un jeu de ce genre, je trouve que ça va. Hein.
Après, artistiquement.
Il faut voir l'envergure de la map.
Oui, il faut voir après comment ça évolue.
Je pense que ce sera pas très grand. Mais ça, c'est pas non plus très grave.
Non,
mais artistiquement et musicalement, et aussi au niveau sonore, c'est vraiment super immersif. Ouais. C'est le genre de truc où ouais, je pense qu'on pourra tous se perdre pendant pas mal d'heures.
Mmh. Et t'as vu quoi comme environnement du coup à part la jungle?
Pour l'instant, j'ai vu que de la jungle, mais je pense qu'il y aura aussi de la savane un peu.
D'accord.
Mais j'ai pas pu y accéder.
Mais jusqu'où ça va après? Parce que là, on a moins 10 millions après.
Ça s'arrête à 2 millions.
Ah, il y a moins 2 millions, d'accord. Ouais.
Okay. Est-ce que t'as une sorte de simili scénario, truc comme ça?
Ah, non.
C'est que de la.
Bah, t'auras des séquences cinématiques quand t'accompliras certaines choses, comme quand t'as sauvé ce petit singe par exemple. Mais il n'y a pas de scénar, il y a un objectif. C'est est-ce qu'on est capable, nous, en tant que joueurs, d'évoluer plus vite ou mieux
que la musique,
que nos ancêtres,
que
nos vrais ancêtres,
que l'évolution réelle.
Voilà.
Alors t'as un fil qui t'amène à la véritable évolution telle qu'on l'a connue, mais t'as aussi où ils inventent un
peu. Non, je pense qu'ils s'en foutent de ça, c'est ce que tu fais apparemment.
Ouais, c'est vraiment, à mon avis, tu n'auras accès que aux choses qui existent dans notre réalité, mais ça s'arrêtera il y a 2 millions d'années, donc. Du coup, peut-être que ça s'arrêtera au moment où le singe se dresse vraiment sur ses pattes, je pense. Yeah. Et c'est ce qui, de toute façon, Desilets nous a expliqué en interview, c'est qu'il a prévu trois volets à ça. Donc ça, c'est la partie avant nous. La suivante, ce sera presque comme nous. Et la dernière devrait être le premier d'entre nous. Donc du coup, ça laisse des possibilités.
The First of Us.
Ouais, exactement. C'est exactement comme ça qu'il me l'a dit en anglais. Donc,
c'est vrai, il a dit ça.
Oui, ouais. Bien sûr. Hein. Il m'a tout dit en anglais. Il a tout prévu comme ça. Mais pour l'instant, il faudra déjà commencer avec celui-là qui sort cette année, donc sous le label Private Division.
C'est
hype à fond.
Oh, oui, c'est un pari
osé, je pense.
Bah si, il faut
que ça change tellement de ce qu'on a.
Il faut que le jeu soit compris, il faut que le jeu soit assimilé, et je pense que effectivement son caractère unique peut en faire quelque chose qui va marcher.
Ce soit une action comme ça, c'est vachement accessible.
Ah oui, mais alors,
c'est pas un truc à la souris où tu dois faire évoluer des trucs, des machins.
Non, franchement, c'est super simple. Et la maniabilité, c'est du Assassin's Creed. Hein. L'animateur et les designers. Il y a des animateurs et des designers d'Assassin's Creed qui ont rejoint le projet. Et donc, du coup, le traversal, comme ils l'appellent en anglais, c'est un truc mais ultra simple, automatisé. T'approches d'un tronc d'arbre, tu t'accroches automatiquement. Ça a l'air bien carré. C'était pas forcément dénué de bugs, hein, quand j'y ai joué.
Oui, bien sûr.
Mais c'est vraiment ultra intéressant.
Camille, ouais, tu voulais rajouter un truc.
D'un point de vue sonore, ça donne quoi? Est-ce qu'on a vraiment l'impression d'être dans la jungle? Enfin, il y a vraiment une ambiance.
On est en Afrique.
Ouais, c'est vraiment sympa.
Ah ouais, t'as beaucoup de percussions, quelques petits instruments dont je connais pas le nom, malheureusement.
Ah, du tam-tam.
Thomas serait là, il pourrait te dire, mais ça fait. Je peux pas dire que ça fait le Roi Lion, mais on est pas très loin.
Et si tu meurs, il se passe quoi?
On dirait de la vraie flotte.
Tu passes à la génération suivante si tu meurs.
Ah, donc tu peux pas reprendre.
Ou tu passes à un autre singe de ta tribu. C'est peut-être le singe de la tribu d'abord.
Oui, il boit de l'eau sale.
Bah, il l'a pas checké, donc ça se trouve
il va mourir.
Va finir empoisonné là, tu vois.
Alors qu'à cette époque-là, l'eau était forcément très pure.
Oui, mais avec quoi dedans? Ça se trouve, il y a du venin qui se balade. Ça se trouve, quelqu'un a fait caca dedans, tu vois. Enfin, bah oui, mais tu dis ça, mais.
Attends, Camille, il va bondir là, fais pas ça.
Bah, Camille, tant pis.
Il me met des gants.
Il mettra du gel antibactérien sur son singe dans le jeu s'il veut. Pas de soucis.
Bon bah c'est super. Et ça sort quand du coup?
Ça sort cette année.
Cette année
sur PS4, PC, Xbox One. Il n'y a pas de date.
Et pas de date non plus pour les deux autres titres.
Ah bah non, mais il n'y a rien du tout là pour l'instant. D'accord. Pour les deux autres. Hein. C'est à l'état de projet.
Ça va être vachement dépendant des ventes de celui-ci, je pense.
Oui, j'imagine.
Même si
ça
après.
Sort cette année quand même ça.
Oui, cette année.
Par contre, c'est en démat ou pas ça? Ou il va faire une version physique?
Ah, je sais pas du tout là. Ça c'est
une édition collector en peau de singe.
Ouais.
Je sais pas si Private Division prévoit d'éditer autrement qu'en dématérialisé. Bah écoute, je pense qu'ils nous tiendront au courant. À mon avis, on passe privé.
En tout cas, toi, ça t'a vraiment plu et du coup, t'as kiffé.
Ah ouais, franchement, ouais, je pense que là, il y a moyen de
moyenner.
Moi aussi, je trouve ça vraiment cool.
Je pensais pas, du tout, je suivais pas vraiment le truc depuis le début. Et là, ce que tu nous en dis et ce que j'en vois, ça me branche bien aussi.
Bah, il n'y a pas eu grand chose pendant longtemps, mais là, d'un coup, il a montré ça, quoi. Donc, c'est vrai que ça change pas mal. C'est ce qu'on pouvait dire.
Non, puis j'étais un gros fan de Evo Search for Eden, donc moi, les jeux sur l'évolution, ça me parle bien.
Oui, qui est juste derrière nous, là, qui tourne en boucle sur la bande d'arcade. Eh bien, merci Petit Plume.
Très bien, de rien.
Il est temps maintenant de parler d'un certain
ça fait nom de dessin, anniversaire. Nom de dessin animé des années 80, tu sais, Petit Plume, c'est le petit indien qui part à l'aventure.
Ah, pas con ça, mais il y a un truc avec Plume, l'ours Plume. C'est un truc pour enfants qui existe déjà.
Tout à fait. Donc, comme je disais, l'anniversaire, Romain.
Et là,
quel est-il de cette semaine?
Gros anniversaire. Je te le demande. Puisque le 21 avril 1989,
oh la vache,
sortait au Japon le Game Boy.
Oh la vache.
Le ou là alors, on sait pas.
Si si, on sait,
on s'en fout.
J'avoue que je m'en fous un peu. Je dis le, mais pour, oui, je dis le pour faire jaser,
j'ai vu ta tête, donc.
Mais le ou là, peu importe. Mais
qu'est-ce qui vous dit que c'est un garçon d'abord?
Ta tête de courbe.
C'est le boy. oui, donc
le 6 genre,
Game Boy projet en fait destiné à rebondir. Sur le succès des Game & Watch au Japon et surtout en Occident, parce que les ventes de Game & Watch au Japon c'était un peu tassé, mais en Occident ça continuait à bien marcher, donc Nintendo voulait lancer sa machine multigame en fait. Et après il y a eu plein de recherches sur les écrans, parce que les écrans de Game Boy et Game Watch c'est pas du tout le même c'est pas le même procédé là. Sur les sur Game Boy c'est le dot matrix, tu sais, le genre plein de petits points qui permettent de faire des graphismes. C'est alors quand on en parle généralement on associe la console à Gunpei Yokoi,
tout à fait,
mais attribuer la création de la console uniquement à Gunpei Yokoi, ça serait un peu injuste. Il y a trois autres personnalités majeures aussi qui sont liées à la création du Game Boy. Il y a Satoru Okada qui était lui vraiment lié à l'aspect technique, parce que Yokoi pouvait avoir des idées mais pas forcément les connaissances technologiques et techniques pour faire ça. Et à côté de ça il y avait aussi Yoshihiro Taki et Takehiro Izushi, pardon.
Taki.
D'ailleurs je vous conseille le livre de Florent Gorge sur l'histoire de Nintendo.
Ah bah oui,
consacré
toujours.
On peut conseiller Florent Gorge
Game Boy.
Tout court, en fait,
voilà. C'est, non, mais c'est vraiment un puits d'informations sur la console. Et donc Game Boy, on sait que ça a été un écran noir et blanc, enfin jaune et vert plutôt, pour limiter les frais, parce que les écrans couleurs existaient déjà à cette époque-là, mais la qualité n'était pas forcément géniale.
Et en plus,
les coûts de production.
Ça aurait coûté une blinde à faire.
Voilà. Exactement. Alors, c'est ça qui est un peu magique avec le Game Boy, c'est que des limitations techniques de ouf. Mais malgré tout, un plaisir de jeu énorme.
Un gameplay extraordinaire.
Et des qualités exceptionnelles. Parce que c'est vrai que l'écran jaune et vert, là, il n'est pas forcément génial. En plus, il n'était pas rétro-éclairé. Donc, ce qui fait que tous les gens qui ont joué avec un ou une Game Boy le savent. Il fallait jouer deux jours ou dans une pièce éclairée.
Exactement.
Mais pas directement sous la lumière, parce que sinon tu voyais plus rien.
Ou alors fallait monter la luminosité au maximum.
Ou alors acheter les loupes.
Oui, j'en avais une.
Les loupes éclairées que tu clipsais dessus.
Exactement, j'en avais
une. Mais malgré tout, des jeux géniaux. Déjà, on commence avec Tetris, qui n'était pas un jeu forcément de lancement au Japon. Nous, on le connaît parce qu'il était vendu avec. Mais Tetris, c'est un jeu peut-être pas le premier jeu casual, mais pas loin, tu sais, le premier jeu auquel tout le monde pouvait jouer. Il y a plein de gens qui ont acheté une Game Boy juste pour jouer à Tetris. Et c'était vraiment un phénomène.
Et surtout, c'était axé sur, où, comme dit la pub, où vous jouez où avec le vôtre.
Tu
transportes partout.
Et le câble link pour jouer à plusieurs.
Le câble link à plusieurs, ça, c'était une des premières
Pour jouer à Tetris, principalement, dans un premier temps.
Comme Scarlett Johansson et Chris
Evans. Photo très chouette.
C'est devenu un même après, je crois.
Photo très chouette vue la semaine dernière sur le tournage d'Avengers Endgame. Ouais. Il jouait au Game Boy à Tetris via un câble Link. C'est marrant. Et donc oui, carton énorme de la console, et qui a presque eu une double vie, parce que alors que la console commençait déjà à être un peu fatiguée en termes de technologie et d'âge, etc. Là, t'as Pokémon qui débarque et qui relance la machine de manière conséquente.
Donc, presque inattendu.
D'après Nintendo. Donc ce sont des chiffres officiels. Quand on regroupe Game Boy et Game Boy Color, c'est 118,69 millions d'exemplaires vendus à travers le monde.
C'est inégalé, ce ça. Je crois aussi la PS2 peut-être.
Je crois que ça reste. Enfin, là encore, c'est un peu injuste parce que ça regroupe les deux modèles,
oui,
mais
c'est
crois que ça, c'est possible que ça soit la console la plus vendue. Mmh. En tout cas, la console portable la plus vendue, ça c'est sûr. Et en termes de jeux, accrochez-vous bien. Un demi-milliard de jeux vendus, 501,11 millions de jeux Game Boy vendus à travers le monde. Donc
la moitié chez Johnny One.
C'est... non, parce qu'il en a volé la moitié, donc il les a pas achetés.
Ah bah c'est un, mais score, ouais, un carton monumental quoi.
Et un catalogue de jeux incroyable. Et moi, ce qui me sidère toujours, c'est ce que certains développeurs arrivaient à faire sur une console si limitée. Parce que rien que voilà, Poufy montre une bande-annonce de
Super Mario Land 2,
ouais.
Wario Land, crétin.
Si tu compares le Super Mario Land original et Super Mario Land 2, d'un point de vue technique et en termes de level design et de réalisation,
tout,
etc.,
tout a changé, ouais.
Le gap est massif. Et pourtant, ça reste cette même console avec ses mêmes, avec ses mêmes limitations. C'est,
Et même son chipset audio qui a été exploité dans des proportions incroyables, notamment par Zelda.
Pour beaucoup, d'ailleurs, la Game Boy a le meilleur Zelda de tous les temps. Enfin, il y a encore des gens qui placent Link's Awakening en haut du classement.
Moi, c'est Super Nintendo, mais après, c'est celui-là. Je mettrai celui-là derrière.
Et un catalogue.
Enfin, dans les trois premiers au moins.
Un catalogue de jeux immense. Des jeux qui sont encore plaisants aujourd'hui. Quoi. C'est, moi, je me rappelle aussi du tour de force de l'adaptation de Donkey Kong Country sur Game Boy.
Ah, ouais, absolument.
Donkey Kong Country qui poussait déjà bien la Super NES.
Les Boundaries,
ils avaient réussi à adapter ça sur Game Boy et c'était super bien fait. Aussi, autre innovation liée à la Game Boy, c'est le Super Game Boy qui permettait de jouer au jeu Game Boy sur la Super NES. Et ce qui était assez dingue, je pense par exemple à Space Invaders, certains jeux avaient des spécificités, enfin des modes et des
capacités
et des choses spécifiques au Super Game Boy. Bah, tu vois, Space Invaders, c'est marrant, ça tombe bien. Quand tu y jouais sur Super Game Boy, t'avais presque un autre jeu en fait.
Avec de la couleur aussi.
Ouais. Oui, ça ajoutait un peu de couleur, etc. Mais dans Space Invaders, c'était vraiment poussé. C'est un cas un peu à part. Donc, console cultissime avec des jeux qui le sont tout autant. Un très bel anniversaire et 30 ans, quoi, Sam.
Voilà, 30 ans,
ça fait quoi, 30 ans.
Ouais. Souvenez-vous, formidable. Ben voilà, merci ans, Romain putain. Pour.
Et joyeux anniversaire.
Et joyeux anniversaire, ouais. Exactement. Tout de suite, on va passer au hors-jeu avec Romain.
Salut à tous et bienvenue dans le hors-jeu de cette semaine. Là, je vous ai sorti un truc un peu particulier, je l'avoue.
C'est vrai, c'est chelou.
Parce que c'est quelque chose qui date de 2014, mais que je me suis récemment procuré en Blu-ray DVD. Et cette chose, c'est High School CH. High School Sega Girls, pardonnez-moi. C'est en fait une série animée en 13 épisodes qui raconte en fait les aventures des consoles Sega. En fait, chaque héroïne, c'est une console Sega. Là, vous les voyez, au milieu, c'est Dreamcast, à gauche, c'est Mega Drive, et à droite, c'est Saturn. Les consoles Sega ont été transformées en héroïne.
Entier prix.
Et les spécificités de la console et de son catalogue de jeux, etc., se reflètent dans le caractère de chacune des héroïnes. Et il n'y a pas que ces trois-là, il y a aussi. Excusez-moi. Il y a aussi Genesis pour la version américaine de la Mega Drive. Il y a. La Game Gear, etc. Et donc en fait le pitch, c'est ces trois jeunes filles se retrouvent à la Seha Gaga Academy et elles doivent valider leur année. En fait, ce sont des cours et chaque cours en fait correspond à une mission. Et c'est ultra référencé par rapport au jeu Sega. Il y a plein de clins d'œil. C'est assez drôle. Par exemple, dans un des premiers épisodes, elles doivent aller dans Virtua Fighter et affronter Akira
des
par
méchants.
Exemple, et pas que. Mais ce qui est marrant, c'est que pour ces graphismes-là, en fait, ils n'ont pas reproduit. Ils ont utiliser les graphismes du jeu, dans le générique, c'est tu vois, Alter Beast, etc. Ouais. Et il y a des références à Golden Axe, à Virtua Fighter, Fantasy Zone, pardon, Golden Axe, tout ça. Et il y a des références à beaucoup de jeux qui ne sont sortis qu'au Japon. C'est très précis. Mais pour les fans de Sega, c'est vraiment sympa. Il y a l'humour marche plutôt bien. C'est de l'humour de geek, tu vois, de l'humour de geek Sega, mais c'est cool. Les petits graphismes tirés de jeu, c'est sympa. Et si je vous en parle, c'est parce que je me suis acheté la version Blu-ray DVD. En fait, les deux sont dans la même boîte.
Ah, bravo.
T'as l'intégralité de la série. La série fait 13 épisodes, donc c'est pas c'est très rapidement regardé. Les épisodes sont assez courts. Mais j'ai dû importer en fait, parce que la série est donc évidemment sortie au Japon. Elle est sortie aux États-Unis en Blu-ray DVD, mais ça a jamais été localisé chez nous en fait. Il y a pas de version française, il y a pas de sortie en DVD ou en Blu-ray chez nous. Donc si ça vous intéresse, évidemment les petits malins pourront se démerder pour trouver le truc en ligne. Mais si vous voulez l'objet, eh ben il faut commander ça aux États-Unis. C'est une trentaine de dollars, mais vous avez l'intégrale de la série et dans les bonus en fait, vous avez une sorte de petite encyclopédie qui explique pour les occidentaux certaines des références très japonaises truc en fait. Moi les références je les avais, mais je me dis que c'est pas forcément le cas de tout le monde, et donc permet d'en apprendre plus sur l'univers de Sega et ses jeux. Enfin, je trouve le pitch assez original en fait, d'avoir transformé les consoles en personnages.
Mais pourquoi la Mega Drive, ce serait celle qu'étudie avec
C'est l'intello de
pourquoi la Mega Drive
et la Dreamcast, elle est un peu... C'est pas qu'elle est bébête, mais c'est qu'elle est un peu perchée, en fait. Elle a des d'ailleurs, au début du truc, elles ont besoin d'une information sur un truc. Elle dit, mais attendez, moi, j'ai une connexion à Internet. Et donc là, elle se connecte, mais ça fait les bruits du 56K. Et donc, il n'y a pas un accès. Je sais plus, elles ont un problème à ce niveau-là. Et donc, oui, je vais pas vous spoiler les intrigues des différents épisodes. Mais
rigolo.
Tout est lié à des jeux Sega. Et c'est vraiment sympa.
Voilà. Et à la fin, elles sont annulées ou pas?
À la fin, ils ferment l'école, ils annulent tout.
Avec Segata Sanshiro qui explose dans le ciel.
Bah, j'étais étonné d'ailleurs qu'on voit pas Segata Sanshiro dans cette série. C'est un peu un acte manqué. D'ailleurs, petite précision supplémentaire.
Oui.
Il y a eu donc 13 épisodes pour la série de base, et en 2016, ils ont fait un épisode bonus, mais l'épisode bonus n'est pas présent dans le coffret. Donc, voilà, vous aurez que les 13 épisodes principaux, et c'est édité aux States chez Discotech Media. C'est assez facilement trouvable. Hein,
Merci Romain pour ce hors-jeu qui clôt du coup ce podcast numéro 495. Merci à tous de l'avoir écouté, suivi, regardé, en fonction de ce que vous faites chez vous. Merci à vous tous.
Faire une fin en ASMR, parce que tu nous le proposes depuis tellement
longtemps. Tu frottes contre ta barbe. Ah,
voilà. Bien voilà, je fais une fin en ASMR, mais non, en fait les micros sont pas assez adaptés en fait pour
tu
ça.
Penses bon, Poufy nous dit que si. Hein.
Poufy, tu nous achèteras des gros micros hyper
non, mais
sensibles.
Ça marche, hein.
Tu m'entends frotter ma barbe là ou
en 3D IO. Ils appellent ça comme ça, un micro 3D IO, je sais pas quoi, un truc comme ça.
Mais non, mais tu peux le faire
avec les deux oreilles là sur le côté.
Et te dit que c'est bon.
Et bien voilà. Ce podcast est maintenant terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour le podcast 496. Salut à tous et jouez bien.
Bonsoir. Ciao.